Il y a quelques mois de ça, j'avais fait un épisode où il était question de certaines des nombreuses quasi-catastrophes nucléaires survenues pendant la guerre froide, notamment pendant l'opération Chrome Dome, alors que les États-Unis tenaient des bombes nucléaires dans les airs 24 heures par jour pour s'assurer de pouvoir répondre à quelque attaque soviétique que ce soit. En voulant être prêts à anéantir l'URSS, les Américains ont failli s'anéantir eux-mêmes plus d'une fois. Vous pouvez écouter l'épisode si vous ne l'avez pas déjà entendu. Il se trouve dans la liste d'écoute du balado que vous écoutez en ce moment, le balado historique de Marcel Dugas. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pendant que je faisais la recherche pour cet épisode, j'ai appris que la région du Bas-Saint-Laurent avait été le théâtre en 1950 d'un incident qui aurait pu être très grave et je m'étais promis d'y consacrer un épisode. Chose promise, chose due, l'épisode que vous écoutez en ce moment s'intitule « La bombe nucléaire de Saint-André de Kamouraska ». 1950 a été une année difficile dans l'est du Québec. En mai, un grand incendie a détruit le tiers de la ville de Rimouski. Quelques jours à peine plus tard, c'est Cabano, dans le Témiscouata, qui est ravagé par les flammes. Et on aurait pu compléter le jamais 203 le 10 novembre à Saint-André de Kamouraska, charmante petite municipalité sise au bord du fleuve, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Rivière-du-Loup. Je vous lis ce que les journaux du lendemain avaient à nous raconter. Le Soleil de Québec titrait sur toute la largeur de sa page frontispice. Violente explosion au large de Saint-André. Un avion militaire américain en détresse largue ses bombes. Des bombes jetées dans le Saint-Laurent par un quadrimoteur de l'aviation américaine ont été la cause d'une forte commotion dans les villages de la région de Rivière-du-Loup. Une série de détonations qui a fait trembler le sol a fait sortir précipitamment les résidents de Saint-André de Kamouraska. À 15 000 au nord, sur l'autre rive du fleuve, les villageois sont également sortis de leur demeure pour s'assurer si la détonation était due à l'éclatement de dynamite, à un tremblement de terre ou au début de la guerre. On peut comprendre que les gens étaient sur les dents lorsqu'ils ont entendu une explosion, surtout une explosion aussi forte que celle-là. La Seconde Guerre mondiale était terminée depuis 5 ans, mais les tensions étaient vives depuis la fin du conflit entre les anciens alliés soviétiques et occidentaux, surtout américains. En fait, les tensions étaient déjà vives dans les dernières années de la guerre. À partir du moment où il est devenu évident que l'Allemagne nazie et le Japon impérial étaient en recul et seraient éventuellement vaincus, à Washington et à Moscou, on a commencé à planifier la suite des choses. Les journaux parlaient fréquemment d'une possible nouvelle guerre. Il y avait eu le blocus de Berlin en 1948-1949. Les Soviétiques avaient coupé les vivres à la partie de la ville de Berlin contrôlée par les Américains, les Britanniques et les Français. Les choses auraient pu dégénérer à ce moment-là. Et en ce mois de novembre 1950, le monde était en guerre. La guerre de Corée avait débuté en juin. On pouvait légitimement se demander si le conflit allait s'étendre, si la guerre pouvait devenir mondiale. Et cet élément-là est pertinent dans notre histoire, je vais y revenir un peu plus tard. Certains résidents de Saint-André de Kamouraska ont bien vu ce qui s'est passé. Le vrombissement d'un avion a attiré l'attention de beaucoup de gens. Ce n'est pas inhabituel de voir des avions militaires dans le ciel du Bas-Saint-Laurent. L'actuel aéroport de Mont-Joli était au départ une base d'entraînement pour aviateurs de l'armée de l'air. Mais ce jour-là, des témoins ont dit avoir vu un objet de dimension appréciable en forme de boule s'échapper de l'avion. Et c'est lorsque la boule est arrivée près du fleuve que l'explosion s'est produite. Certains témoins disaient avoir vu une boule de feu, d'autres non. Le curé du village et sa ménagère ont eu une bonne vue de ce qui s'est passé depuis le presbytère. On a parlé d'un nuage de fumée jaunâtre, devenu noir par la suite, qui s'est élevé jusqu'à rejoindre les nuages. Une trombe d'eau a été soulevée. Le bruit de l'explosion a été répercuté par les montagnes, ce qui a rendu le tout encore plus impressionnant. Il semble bien qu'il n'y a pas eu de dommages, même si M. le curé a dit que les carreaux des fenêtres avaient vibré. Le journal rapporte aussi que bon nombre de citoyens opinèrent qu'il pouvait s'agir d'un appareil américain chargé d'explosifs dont l'équipage, par suite d'une défectuosité des moteurs, jugea prudent de se débarrasser de sa cargaison d'explosifs dans la mer. Les Andréens et Andréennes avaient une très bonne lecture des événements. C'est effectivement ce qui s'est produit. De la glace s'était formée dans les carburateurs de 2 des 4 moteurs d'un bombardier B-50 Super Fortress. Les moteurs sont tombés en panne. L'avion perdant de l'altitude, on a voulu délester l'appareil. Et l'avion en difficulté, parti de la base de Goose Bay au Labrador à destination de l'Arizona, est allé se poser sur les pistes d'un aéroport militaire du Maine. Ça, c'est ce qu'on a appris dans les jours suivants. La version officielle parlait de 3 bombes conventionnelles de 226 kg chacune, ce qui contredisait les témoins qui avaient vu une bombe, mais qu'à cela ne tienne. L'année suivante, un reportage du magazine McLean disait que des sous-marins soviétiques avaient cartographié le Saint-Laurent. Il y a des gens qui disaient avoir vu des sous-marins dans le Bas-Saint-Laurent sans pouvoir connaître la provenance des engins, bien entendu. Et suite à ça, il y a une théorie qui a circulé voulant que l'avion qui avait largué là où les bombes était à la chasse aux sous-marins russes ce jour-là. Mais la vie a repris son cours et l'affaire en est restée là pendant un demi-siècle. C'est seulement en 2000, suite à une demande d'information formulée par le député fédéral de la région, que le ministère de la Défense du Canada a raconté ce qui s'est vraiment passé. La bombe qui a sauté en novembre 1950, il y en a eu seulement une, les gens du coin avaient bien vu, c'est une bombe Mark IV, un modèle amélioré de Fat Man, deuxième bombe atomique lâchée par les Américains sur le Japon en 1945, en l'occurrence, celle qui a pulvérisé la ville de Nagasaki. Les résidents et résidentes de Saint-André-de-Kamouraska ont donc assisté à l'explosion d'une véritable bombe nucléaire. Elle ne contenait pas de charge atomique, fort heureusement, parce qu'une bombe comme celle-là, ça ne sortait pas de l'usine préassemblée avec l'uranium ou le plutonium déjà à l'intérieur, prêt à être largué. Ça aurait été beaucoup trop dangereux. La charge nucléaire se trouvait à part et on l'ajoutait à la bombe en vol alors qu'on approchait de l'objectif. Dans ce cas-ci, le pilote du bombardier qui a rencontré une avarie s'est assuré qu'il n'y avait pas de navire sur le fleuve et a largué le corps de la bombe, comme on dit dans le jargon, qui pesait près de 5000 kg. Et ce sont les 2000 kg d'explosifs conventionnels qui, si la bombe avait été armée, auraient déclenché la réaction nucléaire, qui ont sauté à un peu moins de 800 mètres au-dessus du fleuve. La Défense nationale canadienne a dit qu'il n'y avait pas de charge nucléaire à bord de l'avion, mais ça, c'est pas entièrement certain. Il semble bien qu'une des composantes de la bombe qui favorise la réaction nucléaire et qui contenait 45 kg d'uranium a explosé sans que ça provoque de contamination notable. Ceci dit, qu'est-ce qui fait que cette bombe se trouvait à voler au-dessus du Bas-Saint-Laurent ce jour-là? D'abord, il faut savoir qu'on a été survolé par de nombreux engins nucléaires pendant la guerre froide. Une escadrille de bombardiers a été basée à Plattsburgh pendant des décennies. Ils auraient pu échapper des bombes ou s'écraser sur notre territoire à n'importe quel moment. Mais dans ce cas précis, peu de temps après le début de la guerre de Corée, le gouvernement américain a convaincu le premier ministre canadien Louis Saint-Laurent de permettre le déploiement de bombardiers et d'une douzaine de bombes nucléaires à la base de Goose Bay au Labrador. Selon les théoriciens de la guerre nucléaire, si jamais il y en avait eu une, le nerf de cette guerre-là, ça aurait été le temps de réaction en cas d'attaque de l'autre camp. Des engins nucléaires installés au Labrador étaient plus près de l'Europe du Nord et de l'URSS que s'ils s'étaient trouvés dans les différentes bases du Nord-Est américain. Et c'est, semble-t-il, une décision que Louis Saint-Laurent a prise personnellement de permettre le déploiement de ces bombes-là, sans même consulter son cabinet. Et en novembre, on jugeait que le risque de voir le conflit déborder la péninsule coréenne était faible. La bombe était donc sur le chemin du retour vers les États-Unis. Les autorités ont menti lorsque c'est arrivé. C'est pas si surprenant. Pendant la guerre froide ou pendant n'importe quelle guerre, les gouvernements cachent toujours beaucoup d'informations au public. On veut pas effrayer la population, on veut pas que des informations sensibles se rendent aux oreilles de l'ennemi. Mais entre vous et moi, je suis pas mal certain que les Soviétiques ont appris ce qui s'est passé bien avant les résidents et résidentes de la région de Kamouraska. C'est quand même remarquable quand on y pense. Ça a pris 50 ans avant que la Défense nationale n'ouvre les livres. Et encore là, on n'est pas convaincu qu'ils nous ont tout dit.